Facebook. Notre, j'ai pas beaucoup de temps pour préparer mon exposé cette fois-ci. Donc aujourd'hui, j'ai rédigé ce sommaire. Veuillez regarder ce sommaire en écoutant mon exposé. D'abord, je voudrais me présenter un petit peu encore. Je m'appelle Hiroshi Otsu, professeur de l'université de Seijo. Je suis très heureux de me présenter ici à Tour. Pourquoi? Parce que il y a 23 ans, j'étais ici. J'ai passé pendant un mois. Parce que en ce temps-là, j'étais bien sûr déjà un professeur d'une université d'État, mais également j'ai eu une bourse du club de Rotary International. En ce temps-là, tous les bourseiers du club de Rotary International envoyés en France ont dû s'installer d'abord à Tour pour améliorer leur langue française dans un établissement privé qui s'appelle peut-être Institut Touraine de langue française, etc. comme ça. Et donc, c'était là, justement la première fois que j'ai visité la France. Je n'ai presque jamais parlé en français. Donc, beaucoup d'habitants du Tour étaient vraiment gentils. Donc, j'ai un bon mémoire du Tour. Voilà. D'abord, je dois passer à mon expo de tout de suite. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le contrôle de constitutionnalité sur le pouvoir normatif local pour la garantie des droits fondamentaux au Japon. Bien sûr, c'est un exemple uniquement. Comme les autres participants japonais, je souhaiterais faire mon exposé en lisant le texte préparé dans mon ordinateur. Comme notre collègue M. Pontier a déjà exprimé le normes locales de nos collectivités locales qui s'appelle Jōrei. En France, c'est le règlement local, mais on l'appelle Jōrei. Pourquoi je ne traduis pas le Jōrei, le règlement local en français? Parce que il y a beaucoup de différences que M. Pontier a déjà évoquées. Le Jōrei est assez différent du règlement local en France, puisque le Jōrei est considéré comme norme autonome dans une certaine mesure, non seulement au règlement national, mais également à la loi grâce à la clause générale de compétence, bien sûr implicitement consacrée par la Constitution. La Constitution japonaise garantit d'abord l'autonomie locale en tant que norme fondamentale dans son article 92. Et puis, notre constitution garantit par l'article 94 leur compétence générale, tant administrative que normative, qui permet les collectivités territoriales japonaises d'intervenir dans n'importe quel domaine public sans base législative, mais à condition que ce Jōrei ne déroge pas à la loi concernée. Comme M. Pontier a déjà expliqué. Le pouvoir normatif local dont dispose l'Assemblée délibérante des élus locaux doit respecter les règles prescrites par la loi et le règlement national d'application de la loi. Mais les pouvoirs normatifs nationaux doivent également respecter le principe constitutionnel de l'autonomie locale et la liberté du pouvoir normatif local consacré par la Constitution aussi large que possible. Un tel partage constitutionnel met en précis du pouvoir normatif originaire entre l'État et les collectivités locales provoquera évidemment une concurrence entre la loi et le jōrei. Mais je ne pourrais plus développer ici ce thème à cause du manque de temps. Je ferai apparaître une étude sur ce thème intitulé « Le droit produit du dialogue entre le pouvoir législatif national et local au Japon » dans les actes du colloque à Nanterre de l'année dernière sous la direction du professeur Pierre Brunet. Ce bouquin pourra apparaître peut-être à la fin de cette année. Donc, je voudrais vous demander de consulter ce bouquin. Aujourd'hui, je traiterai le jōrei indépendant sans concurrence avec les normes législatives nationales, puisque la loi n'intervient pas dans le même domaine de ce jōrei. Alors, l'Assemblée délibérante locale japonaise peut adopter le jōrei librement dans ce cas-là. C'est la règle constitutionnelle qui réglemente le pouvoir normatif local. Bien sûr, le contrôle politique des électeurs locaux lors de l'élection mis en part. S'agissant de la garantie des droits fondamentaux, on a un peu développé des critères du contrôle de constitutionnalité en important les critères bien développés aux États-Unis. Et dans le domaine de réglementation de la liberté d'expression, on a maintenant plusieurs critères les plus stricts du contrôle de constitutionnalité. Or, la constitution japonaise oblige le juge au contrôle de constitutionnalité. La constitution japonaise oblige le juge à contrôler la constitutionnalité des normes juridiques dans le cadre du contentieux concret. La censure purement textuelle ne s'applique pas normalement au contentieux concret, puisque le juge doit examiner la supériorité claire et suffisante des intérêts général par rapport aux intérêts concrets concernés locaux en question, dans un contexte concret. Mais lors du statuer sur la constitutionnalité des normes qui réglementent la liberté d'expression, le droit ayant le statut préférentiel à la manière vague ou excessivement large, le juge doit appliquer le critère le plus strict, soit l'interdiction de réglementation obscure, soit l'interdiction de réglementation excessivement large, avec la censure purement textuelle, afin de prononcer l'inconstitutionnalité et la nullité. J'ai écrit ce critère là-bas. Comme je vous ai expliqué, ce sont tous l'importation de la notion américaine. Donc, peut-être que vous avez déjà connu, on dit « void for vagueness » ou « void for overbreadth on its face » en anglais. En fait, au Japon, malheureusement, la Cour suprême n'a pas encore adopté clairement la méthode de censure purement textuelle. Mais elle commence à adopter dans une certaine mesure l'esprit de ces critères. Or, est-ce que le critère du contrôle de constitutionnalité sur le jōrei est totalement identique au contrôle sur la loi. En général, oui, bien sûr. Mais c'est absolument identique. Est-ce que l'on ne peut pas assouplir les critères les plus stricts du contrôle de constitutionnalité sur le Jolé dans un certain contexte concret? C'est le sujet d'aujourd'hui. Il s'agit ici de la particularité essentielle des normes locales, le Jolé. On évoquera donc d'abord un exemple intéressant autour de l'assouplissement du critère le plus strict en faveur d'un Jolé au Japon. Puis, on analysera un peu une justification juridique d'un tel assouplissement en faveur du pouvoir normatif local. On passe à la présentation d'une affaire qui s'appelle Affaire du Jolé de la ville de Hiroshima, relative à la réglementation des bandes de jeunesse, la réglementation des bandes de jeunes voyous motorisés. J'ai utilisé ce mot, la bande de jeunes voyous motorisés. Vous voyez ce mot? En fait, peut-être vous avez quelques mots plus résumés, plus simples. Mais quand j'ai consulté mon dictionnaire, je n'ai pu trouver que ce mot. Donc, j'utilise aujourd'hui la bande de jeunesse voyous motorisés. D'abord, j'explique le contenu de ce Jolé. La ville de Hiroshima, la délégation de l'Université de Hiroshima, notre collègue existe là. La ville de Hiroshima est bien connue par la tragédie de la bombe atomique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez tous. Elle se présente maintenant le symbole de la paix en se déclarant la ville internationale de la paix et de la culture. Elle veut donc garder avec zèle son image paisible et son atmosphère tranquille et culturelle. Mais il y a une dizaine d'années, il existait plusieurs bandes de jeunes voyous motorisés dans la ville de Hiroshima, comme ailleurs. En général, les bandes de jeunes voyous motorisés de Hiroshima étaient connues assez violentes. C'est vrai? J'ai entendu que dire ça. Et puis, de plus, le caractère spécifique des bandes de jeunes voyous motorisés se trouvait dans leur assemblée fréquente en s'habillant à la manière assez effrayante dans l'espace public tel que le parc municipal. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée délibérante municipale de Hiroshima a adopté le Jolé relatif à la réglementation des bandes de jeunes voyous motorisés en 2002. L'article premier de ce Jolé de Hiroshima prescrit le but de cette norme locale indépendante de la loi comme ci-dessus. Ce Jolé a pour but de réaliser la sécurité et la sûreté de la vie locale de Hiroshima en réglementant l'assemblée, la réunion et la manifestation des bandes de jeunes voyous motorisés ou l'incitation de leurs actes de conduite téméraire collective et les actes similaires en visant l'exclusion des bandes de jeunes voyous motorisés de la ville. Pour la raison que les actes de conduite téméraire collective, l'assemblée et la réunion des bandes de jeunes voyous motorisés ainsi que leurs manifestations rôle de la fête traditionnelle influence considérablement la dégradation de la jeunesse et dégradation de la vie locale de Hiroshima, ainsi qu'il viole l'image de Hiroshima en tant que ville internationale de la paix et de la culture. Puis, l'article 2 de ce journal prescrit la définition des termes utilisés dans ce journal. C'est très important. Donc, écoutez avec beaucoup d'attention, malgré ma prononciation mauvaise. Aliéna 5 de l'article 2 qui définit les actes de conduite téméraire collective. Ces actes veulent dire que les actes de conduite collective du véhicule et les actes similaires ont violent les règles prescrites dans la loi relative à la circulation et la sécurité dans le lieu. C'est vraiment compréhensible, pas de curiosité, mais le problématique existe suivante. C'est l'aliéna 7 de l'article 2. J'ai aussi écrit sur ce plan la définition de la bande de jeunes voyous motorisés. La bande de jeunes voyous motorisés signifie qu'un groupe qui se réunit ayant pour but de faire les actes de conduite téméraire collective. Jusqu'ici, c'est bon, mais ainsi qu'un groupe qui s'assemble, se réunit ou fait la manifestation dont les membres supportent les costumes curieux à la manière de faire le public éprouver de l'inquiétude ou se mettre substantiellement la marque de sa bande de jeunes voyous motorisés dans l'espace public. Donc, on ne se limite pas à cette définition au groupe qui fait la conduite téméraire collective, mais également qui comprennent les autres actes de réunion. Oui, j'explique. On peut remarquer quant à l'alinéa 7 ci-dessus que, littéralement dit, l'objet de réglementation ne se limite pas aux assemblées ou réunions des bandes de jeunes voyous motorisés. Mais il pourra s'étendre à d'autres sortes de l'assemblée ou réunion de la jeunesse, supporte les costumes curieux à la manière effrayante pour le public. En général, la jeunesse mal élevée préfère l'attitude dégradée contre l'ordre, n'est-ce pas? Donc, pour mieux comprendre, j'ai distribué cette document supplémentaire. Regardez ce document. À la gauche, ce sont des images typiques de la bande de jeunesse voyous motorisée japonaise. Ils portent le costume militaire avec le drapeau national et les armées pour démontrer leur force violente, etc. C'est l'image typique de la bande de jeunes voyous motorisés. Mais regardez l'image à la gauche, au-dessus. Dans cette photo, il y a également beaucoup de jeunes qui se portent les costumes curieux, trop de décorés et tout cette décoration et tout cela. Ce n'est pas l'image de l'image de la bande du boyau, d'une boyau motorisée. Et ils se sont réunis afin de soutenir une équipe professionnelle de la baseball adorée. Donc, ils ne sont pas boyaux. Mais quand même, on peut éprouver de l'inquiétude si l'on n'aime pas cette sport, ces costumes. Et la photo à la gauche, au-dessus, c'est une image des chats décollés à la manière de la bande de Jun Boyau motorisée. Elles sont des mascottes mignons très populaires des années 80 au Japon qui s'appellent Nameneko. Et peut-être vous connaissez, c'est une plaisanterie. Bon, je continue. En se voisin, sur une telle définition, ce jour-là de Hiroshima stipule dans l'article 16 qu'il est interdit à tous de s'assembler ou se réunir à la manière de faire le public éprouver de l'inquiétude ou de la peur dans l'espace public sans l'autorisation du propriétaire ou du gérant de l'espace. Puis, ce jour est prescrit l'ordre de cessation dans l'article 17 ci-dessus. Lorsque l'on a fait l'acte défini dans l'article 16 au-dessus, en se portant les costumes curieux, en cachant son visage totalement ou partiellement, en formant un cercle ou en manifestant avec le drapeau dans l'espace public géré par la ville de Hiroshima. Dans ce cas, le maire pourra ordonner d'arrêter ces actes ou d'évacuer les acteurs de l'espace public. De plus, ce jour est prescrit finalement la pénalité dans l'article 19 ci-dessus. Ce qui a transgéré l'ordre de cessation du maire sera condamné à 6 mois de prison ou à une amende de 100 000 yens au maximum. On appelle cette combinaison de l'ordre de cessation préalable et la punition ultérieure en tant que résultat de la transgression de l'ordre administratif, la réglementation hybride. La collectivité locale japonaise utilise souvent une telle réglementation hybride afin de réglementer les actes pas tellement clairs à punir. Puis, j'explique le jugement de la Cour suprême sur l'affaire. L'accusé dans cette affaire était le chef de file d'une grande bande de jeunes boyaux motorisés à Hiroshima. Il était également un membre subalterne d'une mafia japonaise locale. Après avoir adopté ce jour-là dans la ville de Hiroshima, il a réagi beaucoup contre la réglementation. C'est la raison pour laquelle il a organisé exprès une assemblée très ostensible des bandes de jeunes boyaux motorisés dans un parc municipal. Et il a ignoré carrément et violemment l'ordre de cessation donné par le maire. La première instance criminelle a déclaré coupable contre lui à 4 mois de prison avec sursis de 3 ans. La deuxième instance criminelle a rejeté son appel. Il a donc été pourvu en cassation en raison de l'inconstitutionnalité de ce jour-là, notamment en raison de son obscurité, sinon en raison de sa réglementation excessivement large. La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation le 18 septembre 2007. En fait, elle a d'abord admis dans ce jugement que la prescription de ce jour-là n'était pas pertinente à cause de sa probabilité de provoquer la réglementation excessivement large, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais les juges majoritaires de la dernière instance ont admis finalement que l'on pourra accepter quand même l'interprétation restrictive de la définition des bandes de dunes boyeux motorisées prescrites dans l'article 2, alinéa 7, en considérant l'intention du législateur déduite du texte entier de ce jour-là, c'est-à-dire la réglementation des bandes de dunes boyeux motorisées en tant que bandes discernées au sens fort du terme et en considérant également les précisions faites par le règlement local d'application du jour-là édicté par le maire. Nous avons distingué le jour-là et le règlement local édicté par le maire. Et de plus, ils n'ont pas admis non plus l'obscurité de la prescription de ce jour-là en se basant sur une telle interprétation restrictive. Mais il existait l'avis minoritaire de l'opposition dans ce jugement. C'est le juge Tokiyasu Fujita, j'ai remarqué ça, ex-professeur renommé du droit administratif à l'Université de Tohoku, qui a écrit cet avis de l'opposition en insistant vigoureusement sur l'inconstitutionnalité de ce jour-là. Selon lui, professeur Fujita, s'agissant de la réglementation de la liberté d'expression, l'accusé pourra alléguer le critère de l'interdiction de réglementation excessivement large afin de faire le juge déclarer l'inconstitutionnalité et la nullité de la norme juridique en question, en se basant sur la censure purement textuelle, même si cet accusé a commis en effet un acte criminel typique que la norme juridique en question avait justement visé. Quant à cette affaire, il a osé dire donc que il faudrait la décision de l'inconstitutionnalité et de la nullité de ce jour-là, puisque l'avis majoritaire a admis lui-même aussi la problématique textuelle de ce jour-là. Par ailleurs, il existait de même un autre avis supplémentaire à l'avis majoritaire. C'était l'avis du juge Yukio Horikago. Le juge Yukio Horikago. Selon Yukio Horikago, le texte du jour-là, quel qu'il soit, est en général plus obscur par jour-là. Selon ce juge, le texte du jour-là, quel qu'il soit, est en général plus obscur par rapport à texte de la loi. Et quant à cette affaire, l'acte de l'accusé était justement l'objet que ce jour-là avait visé. Tant l'essence de jour-là est que le contexte de l'affaire Raphaël Toulet de permettre donc les juges d'interpréter ce jour-là à la manière restreinte afin d'éviter le jugement de l'inconstitutionnalité. Puis, je vais analyser du point de vue doctrinal de ce jour-là. D'abord, en ce qui concerne le refus du critère du plus strict dans la vie majoritaire de la Cour suprême. Alors, pourquoi la Cour suprême n'a pas appliqué le critère de l'interdiction de la réglementation excessivement large à cette affaire? Il existe deux explications. Premièrement, on devrait admettre que les juges majoritaires de la dernière instance sont toujours très modérés. Et donc, ils n'ont pas encore accepté suffisamment le critère le plus strict lors de la censure juridictionnelle de constitutionnalité sur la réglementation de la liberté d'expression. C'est le même cas pour le critère de l'interdiction de réglementation obscure. Par exemple, dans l'affaire du Joré de la ville de Tokushima, relative à la circulation et à l'ordre public, la Cour suprême a écarté l'argument de l'obscurité textuelle de Joré en 1975, bien que ce Joré réglementait la liberté de manifestation dans la rue. En fait, M. Pontier a évoqué ce jugement. Dans le contexte différent, le jugement du Cour suprême en 1975 a admis la coexistence entre normes nationales et normes locales en interprétant ces deux textes harmonieusement. Voilà. Mais dans ce domaine de la réglementation de la liberté de l'expression, ce jugement me semble plutôt mauvaise chose. Cette première explication sera probablement le plus convaincante. La plupart des constitutionnalistes japonais sont d'accord avec cette explication. Mais il existe probablement une autre explication plus ambitieuse. Cela concerne la particularité essentielle des normes juridiques locales. De ce point de vue, on donne la priorité à la flexibilité et à la pertinence effective sur place des normes locales, au détriment du principe de l'état de droit moderne. Dans l'affaire du Joré de Hiroshima cette fois-ci, on peut retrouver ce type d'argument dans l'avis du juge Horikago que j'ai évoqué tout à l'heure. Un administrativiste japonais, Takesada Imahashi, il a également estimé lui aussi plutôt favorable à la réglementation obscure ou à cette réglementation excessivement large du Joré de Hiroshima. Selon Imahashi, en fait, presque tous les habitants de Hiroshima peuvent comprendre ce que le terme « les bandes de dunes voyous motorisés » veut dire, malgré sa définition excessivement large, puisque les habitants de Hiroshima ont souffert depuis longtemps de l'assemblée ou de la réunion considérablement violente et effrayante des bandes de dunes voyous motorisées à Hiroshima. Imahashi a donc osé dire qu'il vaut mieux donner la priorité à la pertinence effective sur place plutôt que la balure du formalisme moderne du droit. On peut retrouver le même esprit dans l'argument dans notre administrativiste. Hatsuhito Isozaki, professeur à l'Université Chuo, collègue de M. Maki Nishiumi, n'est-ce pas? Ah ouais. Isozaki était fonctionnaire local du cadre du département de Kanagawa. Donc, il connaît bien la réalité de la vie locale et il est donc favorable aux pratiques des collectivités locales japonaises. Il a d'abord évoqué l'argument de deux sociologues juristes belges et américains, Philippe Nonet et Philippe Selznick, qui avaient souligné une grande transformation historique inévitable du droit. D'abord, on avait le droit oppressif du dictature dans l'Antiquité, puis le droit autonome établi par l'Assemblée représentative centrale dans l'ère moderne, qui respecte l'impartialité formelle et stable. Et finalement, on a le droit capable de réponse réciproque ou le droit interactif entre les acteurs intéressés dans l'époque contemporaine, qui respecte plutôt la valeur de la pertinence effective sur place et la valeur du dynamisme participatif dans les normes juridiques que leur intégrité formelle. Isozaki emportait cet argument dans l'explication du caractère du jōrei en tant qu'élément essentiel du droit contemporain. Dans son argument, donc, l'intégrité formelle et textuelle du jōrei aura peu d'importance. Les critères de l'interdiction de l'obscurité ou le critère de l'interdiction de réglementation excessivement large, avec la censure purement textuelle, ne pourront plus s'appliquer au contrôle de jōrei. En suivant son argument, on pourra dire que le jugement de la Cour suprême sur le jōrei de Hiroshima se catégorise dans le droit contemporain plutôt préférable. Je termine. Tout de suite. Pour terminer mon intervention, je devrais vous présenter ma position provisoire. En tant que spécialiste de droit de décentralisation, je suis plutôt favorable à la flexibilité du jōrei, à sa pertinence effective sur place et à sa capacité d'interaction en tant que droit contemporain. Mais je suis également constitutionnaliste qui donne la priorité toujours à la garantie la plus large de la liberté d'expression et des droits fondamentaux analogiques. En fait, l'argument de Isozaki a concerné la réglementation de la liberté économique et liberté du droit de propriété dans la vie locale. Dans ce cas-là, on ne pourra pas appliquer catégoriquement le critère le plus strict du contrôle de constitutionnalité. Mais dans le domaine de la réglementation de la liberté d'expression, il faudra garder le critère le plus strict autant que possible. Je ne pourrais pas accepter donc l'argument de Imahashi qui me semble donner catégoriquement la priorité à la pertinence effective sur place et à la flexibilité au détriment de la valeur du droit moderne. Mais sauf dans le cas où, pour protéger la vie locale importante, il n'y aurait aucun autre choix que la renonciation. Pardon, je répète. À mon avis, il y a une exception. c'est le cas où, pour protéger la vie locale importante, il n'y aurait aucun autre choix que la renonciation aux critères les plus stricts concernant la réglementation de la liberté d'expression. S'agissant de l'affaire du dit Joré de Hiroshima, en fait, on pourra espérer une amélioration textuelle sans réduction grave de l'efficacité de la réglementation nécessaire des bandes de dunes boyaux motorisées à Hiroshima. Les juges de la dernière instance ont dû donc prononcer l'inconstitutionnalité et la nullité du Joré dans ce cas-là. Merci à votre attention.
Merci, monsieur. Merci, professeur Otsu. Je ne voulais pas l'arrêter parce que c'était la dernière intervention. Je me suis dit là, donc ce n'est pas grave. Mais c'était très intéressant d'entendre cette opposition entre les règlements local et la constitutionnalité et leur constitutionnalité. D'ailleurs que je ne comprends pas beaucoup, mais je connais ce problème de jeunes, comment il les a traduits, de Boryokudan, c'est ça?
Bosozoku,
c'était les jeunes, des groupes de jeunes qui dérangent tout le monde, et que je crois la plupart des mairies à Tokyo et au Japon essayent de stopper de temps en temps. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Donc je crois maintenant, si vous le permettez bien, je crois que c'était la dernière intervention de cet après-midi. Si vous avez des questions pour les deux... Ouais.
Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir sur l'exposé du professeur Jean-Marie Pontier. Je trouvais fort intéressant, surtout l'angle dans lequel vous avez abordé la question. J'avais deux remarques ou deux questions, deux observations. Et ça concerne tout d'abord, vous avez évoqué la question du suffrage universel direct avec l'intercommunalité. C'est un sujet sur lequel j'ai un petit peu travaillé, mais il me semble déjà qu'il va y avoir une évolution s'agissant de l'intercommunalité, je crois à partir de 2020 ou 2021, enfin dans ces eaux-là. Mais c'est pas là-dessus que je voulais m'arrêter. C'était est-ce que il faut faire un lien, par exemple, avec la question de l'impôt? Parce que on l'évoque jamais directement, et j'aimerais bien savoir si au Japon c'est le cas, mais dans la doctrine et dans notre conception, en tout cas du suffrage universel, même si c'est pas forcément toujours exact, mais en tout cas il y a un lien très étroit entre le droit d'expression de la personne, citoyen ou administré, peu importe, et justement l'impôt. Or effectivement, l'un des problèmes s'agissant de l'intercommunalité, c'est que vous avez bien dit que l'intercommunalité aspirait en réalité les compétences des communes, et notamment aspire la fiscalité des communes, et évidemment là se pose un véritable problème, c'est comment finalement les administrés contrôlent finalement l'intercommunalité, parce qu'il doit y avoir un lien. À partir du moment où il y a un impôt, il doit y avoir une contrepartie, et on sait que c'est l'un des éléments en tout cas qui fait le lien entre les deux. Donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus, et je voulais savoir aussi, est-ce qu'en droit japonais il y a ce lien, enfin dans la conception japonaise du suffrage, est-ce qu'il y a ce lien entre l'expression du suffrage et l'impôt? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, mais c'est plutôt une interrogation, on parle, vous n'avez pas pu beaucoup le développer parce qu'il vous manquait du temps, mais on parle de la démocratie locale. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie entre décentralisation et démocratie locale? Je veux dire, par là, décentralisation, vous avez bien dit que ça partait du haut et que l'autonomie, ça partait du bas. Bon. Moi, je souscris tout à fait à cette vision. Enfin, une démocratie locale dans laquelle l'exécutif n'est jamais responsable, ça pose quand même un véritable problème. Une fois que les administrés ont désigné les organes délibérants des collectivités territoriales, les rapports entre l'exécutif qui décide en réalité de tout, sans véritable contrôle. Moi, j'étais conseiller municipal, c'est effarant. Enfin, je veux dire, le conseiller municipal ne sert à rien. En tout cas, pas à grand-chose. Non, mais c'est une réalité. Et là, je m'interroge vraiment sur l'expression démocratie locale. Mais comme dans d'autres domaines, on emploie des mots, des expressions, en réalité trompeuses. Et est-ce que, de ce point de vue-là, il ne faudrait pas aussi s'interroger ? Et j'aimerais savoir si, au Japon, il en est de même. Comment fonctionnent en réalité les rapports entre les exécutifs locaux et le délibératif local ? Voilà, deux questions. Je ne sais pas si ça rentre exactement dans le propos de votre invention, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Merci.
S'agissant de la première question, je ne peux qu'être d'accord avec vous. La fiscalité... Les finances, plus généralement, sont la pierre d'achoppement. Et c'est la principale objection que l'on peut faire à l'intercommunalité qui reste sous forme de suffrage universel indirect. Parce que, comme vous l'avez fort bien rappelé, il y a le consentement à l'impôt. Or, avec le développement des intercommunalités, les citoyens ne souscrivent plus à rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. D'abord, les impôts qui vont à l'intercommunalité, qui sont de plus en plus importants, les dotations dont bénéficient ces intercommunalités, et ils n'ont aucun contrôle. Donc, c'est de ce point de vue, effectivement, qu'il me semble qu'il y a une faille dans le système et qu'il faudra bien évoluer. Bon, je souscris entièrement à votre analyse. S'agissant du second aspect, la démocratie locale, j'aurais tendance à dire que ça ne... Alors, deux remarques. Oui, d'abord sur décentralisation et démocratie locale. Effectivement, ça ne va pas nécessairement de pair. Surtout, il y a des procédés de démocratie locale qui existent aussi bien en France qu'au Japon, sur le papier. Le référendum, nous avons le référendum décisionnel à l'échelon local. En réalité, la réalité... c'est que les élus locaux ne procèdent pratiquement jamais à ces référendums décisionnels. Je crois que de 2005 à 2009, après les chiffres, c'est moins net, mais il y en a eu 17 en tout en France sur 35 885 communes. Et sur les 17, il y en a eu la moitié qui était invalide parce qu'il n'y avait pas suffisamment de participation. Mais les conseils municipaux n'ont pas du tout envie de soumettre à référendum décisionnel une question quelle qu'elle soit. Ils veulent garder le pouvoir pour eux. Nous restons en démocratie représentative. Cela ne coïncide plus du tout avec l'extension des compétences et des pouvoirs qui s'est produite depuis un certain nombre d'années au profit des autorités locales. Oui, il faudrait changer cela, sinon il y a une contradiction profonde. S'agissant du Japon, je crois que de ce point de vue, ce n'est pas mieux parce qu'il y a des procédés qui existent. Alors le référendum, à ma connaissance, au référendum local, n'est pas référendum décisionnel parce que les autorités locales japonaises craignent l'inconstitutionnalité du recours à un référendum décisionnel. Donc c'est uniquement un référendum de consultation. Par ailleurs, au Japon, il existe des procédés qui sont inspirés des États-Unis, des procédés du type recall. Sur le papier, il y a une possibilité de demande par les citoyens de révocation des autorités locales. Mais à ma connaissance, ça ne fonctionne guère. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce type. Donc je crois qu'en démocratie locale, dans nos deux pays, le résultat est très peu favorable. On ne peut pas parler de véritable démocratie locale.
Et juste, je me permets, la question de la responsabilité de l'exécutif devant les assemblées locales au Japon.
Alors ça, je ne sais pas s'il y a une responsabilité. J'avoue que je ne sais pas. Responsabilité de l'exécutif devant les assemblées locales, est-ce que ça existe ? Ça, je ne sais pas. À ma connaissance, non, mais je ne sais pas.
Ça existe, bien sûr, parce que chez nous, comme M. Pontier a déjà expliqué, les électeurs locaux élisent respectivement le membre de l'Assemblée délibérante et le chef exécutif. Et donc, la attitude, position politique est de temps en temps différente entre deux. Et si le chef exécutif s'oppose à la majorité de l'Assemblée délibérante, l'Assemblée délibérante peut adopter la censure de la responsabilité. Et d'autre côté, le chef exécutif peut dissoudre l'Assemblée. Voilà.
Oui, si vous avez d'autres questions. J'ajoute, je crois, le cas le plus juste il y a deux mois, c'était le cas qui s'opposait au maire de Tokyo. Parce qu'il était dans le choix entre démissionner ou faire. Comment ça s'appelle ? Faire démissionner l'Assemblée. Donc elle a préféré de démissionner parce qu'elle n'avait pas la majorité.
Oui, une question à Hiroshi au-dessus. S'agissant du Jorei là, de Hiroshima, est-ce que c'est le maire ou bien est-ce que c'est l'Assemblée ? Parce que moi, j'analyse cette mesure, vue du côté français, comme un arrêté municipal dans le cadre d'un pouvoir de police. Mais je ne crois pas que ce soit une analyse transposable au Japon. Je ne crois pas que ce soit l'expression d'un pouvoir de police. Alors, quelle est la différence entre les mesures qui sont prises par l'Assemblée délibérante et les mesures qui sont prises par le maire ?
D'abord, dans notre pays, si l'autorité locale veut réglementer la liberté des individus, il faut absolument adopter le Jorei en tant que norme, norme adoptée par l'Assemblée représentative. Et sans Jorei, le maire ou le chef exécutif du département ne peuvent pas établir arrêt administratif pour réglementer la liberté.
Donc il n'y a pas de pouvoir de police tel que nous le connaissons en France au profit de l'exécutif de la collectivité.
Précisément dit, et non.
Oui, c'est une grosse différence par rapport à la France.
Aussi une question. Je remercie mon collègue et ami Hiroshi Otsu pour son excellent exposé, parce que c'est vraiment très intéressant comme question, parce qu'il y a deux aspects en fait. Il y a l'aspect droit administratif et l'aspect droit pénal, puisque c'est une réglementation hybride, c'est-à-dire qu'il y a l'ordre de cessation préalable du maire qui interdit donc la manifestation, et puis il y a la punition. Et autant je comprends que void for vagueness, c'est-à-dire pour, nul pour incertitude, pour absence de précision de la norme, en droit administratif, ça ne joue pas tellement, mais en droit pénal, ça joue. C'est-à-dire que il est interdit de manifester, effectivement. Qu'est-ce que c'est les jeunes voyous motorisés ? Il y a une double définition, tu as très bien marqué dans la définition. Au début, comme tu dis, ça va. Au début, un groupe qui se réunit avec des actes de conduite qui peuvent faire peur. Mais après, le groupe qui s'assemble avec des costumes, c'est-à-dire la situation de l'autre photo, c'est pas clair du tout. Et donc, du côté du droit administratif, ça pourrait aller, du côté du Jorei. Mais du côté du droit pénal, qui suppose une définition stricte d'une infraction pénale, parce qu'il y a une infraction pénale. Tu as dit toi-même, ils ont été condamnés à de la prison, avec sursis, avec mise à l'épreuve. Donc là, il fallait une précision suffisante de la norme du côté pénal pour qu'il y ait une sanction pénale. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc je ne comprends pas l'attitude de la Cour suprême qui dit « je ne contrôle pas parce que c'est de la réglementation locale et donc je ne vais pas contrôler du tout les oreilles ». Et donc, du coup, l'aspect pénal n'est pas contrôlé. Non, si j'ai bien compris, c'est ça ?
J'explique un petit peu plus. En fait, les responsables de la DGS Jolé dans la municipalité de Hiroshima ont voulu élargir la réglementation du comportement mal élevé. Donc, non seulement réglementation de l'assemblée du band de jeune boyau motorisé, mais ils ont voulu un peu élargir un comportement mal élevé autre que les bandes de jeunes boyaux motorisés. Et quand même, dans ce cas, il faut écrire plus précisément l'objectif, ce but dans le Jolé. Mais le rédacteur du Jolé n'a pas pu réussir d'établir, écrire très clairement le texte. Mais au Japon, la Cour suprême utilise très souvent la interprétation restrictive pour que concilier la problématique textuelle des normes avec la le jugement de constitutionnalité, parce que la, comme je vous ai expliqué, la majorité des juges de la dernière instance ne veulent pas prononcer l'inconstitutionnalité autant que possible. Mais c'est une première explication, hein, j'ai dit ça. Mais je vous ai dit qu'il y aura une autre explication. Cela concerne la spécificité des normes locales. Voilà. Je voudrais ajouter un plus, un point. Monsieur Pontier a évoqué une mesure de réglementation officieuse des individus, c'est-à-dire la direction en officiel, Gyosei Shido. Oui, dans le passé, les collectivités locales japonaises ont utilisé souvent ce type de mesure de réglementation dans le domaine de l'urbanisme. Oui, parce que notre loi de l'urbanisme n'était pas suffisante. C'est pour ça que en s'inquiétant de confrontation de la prescription de la loi de l'urbanisme, beaucoup de collectivités locales japonaises préfèrent utiliser la direction en officiel pour inciter, convoquer les individus de se limiter de trop d'utilisation du terrain, etc. Mais en fait, notre collègue, monsieur Isobe, son père, grand Isobe, était professeur administrativiste très reconnu dans ce domaine. Son père a donc bien développé cet aspect du point de vue. Même si la collectivité locale japonaise réglemente officieusement la liberté de propriété, liberté d'économie, en utilisant la direction officielle, mais c'est très utile. Donc, la spécificité des normes locales permet ce type de mesure. Voilà.
Une question à ce propos, justement, ces directives. Moi, j'ai lu, vous allez me confirmer ou infirmer, j'ai lu qu'un certain nombre de municipalités avaient utilisé ces directives pour accroître les exigences qui, selon elles, n'étaient pas suffisantes à l'échelon national. Pour accroître les demandes, les contraintes à suivre en matière d'urbanisme ou d'environnement notamment. Est-ce que c'est exact?
Oui, c'est monsieur, le professeur Sogabe.
Oui, merci. Je pose une question parce que monsieur Pontier a mentionné la question de la police et du maire. En fait, je m'interroge depuis longtemps sur une question à savoir que pourquoi est-ce qu'on peut justifier des pouvoirs de police générale du maire français? Parce que, à mon sens, ce pouvoir général de police, ça c'est bien contrevenant au principe de réserve des lois. Parce que on a les maires peuvent ordonner une telle ou telle mesure de police sans une disposition de loi. En fait, quand on se limite à des choses récentes, la presse japonaise dit que comment dirais-je, tel ou tel maire interdit burkini à la plage, ou même interdiction de Pokémon Go dans une commune française. Mais il n'y a aucune disposition de loi qui autorise cette telle ou telle mesure. Donc c'est assez bizarre pour moi parce que c'est comment on peut justifier ce pouvoir par rapport du principe de réserve de loi. Donc c'est ça.
Alors, la réponse est très simple. En ce qui concerne la France, elle est double. J'écarte tout d'abord cette notion de réserve de loi qui n'est pas appliquée en France. Mais réponse au double. D'une part, le pouvoir de police du maire est très ancien. Il remonte non seulement à la Révolution, mais même à l'Ancien Régime. Mmh. Et pendant très longtemps, le maire va exercer ce pouvoir de police au nom de l'État. Mmh. Et il est contrôlé dans l'exercice de son pouvoir de police par le supérieur hiérarchique, qui était alors le préfet. Et puis à partir de 1883, les maires sont élus, avant qu'il n'y ait la loi de 1884 sur les communes. Le maire a conservé son pouvoir de police. Simplement, on a considéré que, s'agissant du pouvoir de police général, il était désormais exercé au nom de la commune et non plus au nom de l'État, mais toujours sous le contrôle du préfet. Et puis avec le développement de la décentralisation, qui, entre parenthèses, je le précise, ne commence pas en 1982. 1982, contrairement à ce qui est même dit parfois en France, ce n'est pas le début de la décentralisation. 1982, c'est une suite. La décentralisation véritable commence en 1960, 1959 exactement. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce pouvoir de police du maire est étroitement contrôlé par le juge administratif, en dernier lieu par le Conseil d'État. Et notamment, ça serait trop long à dire parce qu'il y a des milliers d'arrêts sur le pouvoir de police, mais le Conseil d'État retient deux principes. D'une part, c'est le fait qu'une disposition de police qui est générale et absolue est illégale. C'est lui qui contrôle l'application de la loi. Donc pas de disposition générale et absolue en matière de police. Mmh. Et d'autre part, le Conseil d'État tient toujours compte d'une notion absolument essentielle qui est ce qu'il appelle les circonstances locales. Mmh. En fonction des circonstances locales, la même mesure de police sera justifiée à un endroit, sera injustifiée à un autre endroit.
Oui, je sais, c'est une tradition très longtemps. Je sais que, oui, je sais, c'est ce pouvoir de police, ça, c'est, oui, c'est, comment dire, ce principe a une longue tradition. Mais, et je sais que ce pouvoir de police est bien contrôlé par le Conseil d'État, mais, comment dirais-je, en fait, le contrôle du Conseil d'État signifie qu'il y a un contrôle au point de vue des libertés publiques. Bien mais sûr. D'autre part, donc, la réserve de loi constitue un élément de légitimité démocratique. Donc la délégation de la loi, c'est important parce que ça signifie, ça incarne la légitimité démocratique.
Oui, ça n'intervient pas ici. Cette légitimité démocratique n'est pas en question en France. Et la notion de réserve de loi n'est pas appliquée par le juge administratif. Et d'autre part, n'oubliez pas une différence essentielle entre la France et le Japon, c'est qu'en France, les citoyens n'hésitent pas à faire des recours contre les mesures de police des maires. Et qu'il y a de nombreuses mesures de police des maires qui sont annulées. Je pense par exemple aux arrêtés qu'on a appelés arrêtés anti-mendicité. Ces arrêtés anti-mendicité ont été annulés par le juge administratif, dans la plupart des cas. Pardon ? Oui, ben c'est ce qui est évoqué. Oui, oui c'est juste ce qu'il évoquait justement.
Ok, une question de professeur Mangin.
Merci. Ces deux exposés étaient extrêmement intéressants. Celui du professeur Pontier m'a particulièrement plus sur les critères méthodologiques qui ont été déployés pour comparer les deux systèmes de collectivités territoriales. Alors j'ai une petite question, alors sans doute une grande banalité, mais ça peut être intéressant d'avoir votre réponse ainsi que celle de nos collègues japonais. La préfecture au Japon, est-ce que l'on peut la comparer à nos régions, puisque vous parlez des régions, est-ce qu'on est sur des schémas territoriaux et des compétences comparables? Et puis le département, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur le département au Japon, à quoi cela correspond. Et puis je voudrais me permettre deux, trois petites remarques très rapides en passant sur les quelques échanges qui ont eu lieu concernant la démocratie locale et puis l'intercommunalité très rapidement. Sur la démocratie locale, Pascal, tu as été conseiller municipal, moi j'étais adjoint au maire. Donc, pour rejoindre, et conseiller communautaire par ailleurs, ce que tu disais, oui, tu as raison, le conseiller municipal, à part s'énerver une fois par mois dans la salle du conseil et puis faire des gros yeux, il ne sert pas à grand-chose. L'adjoint a au moins le sentiment de servir à quelque chose. Et c'est vrai que c'est là où ça se passe. Et c'est vrai, ce que tu dis, l'équipe de l'exécutif est indéboulonnable pendant les 6 ans que dure le mandat. Bon, dans le même temps, il y a d'autres formes de contrôle. Alors, c'est un peu anecdotique, mais amusant en même temps. Surtout dans une petite commune comme la mienne, où en réalité, le contrôle citoyen, il s'effectue où ? À la sortie de l'école, à la boulangerie, à la boucherie. Parce que là, en plus, moi, dans ma commune, c'est des gens avec qui j'étais à l'école, donc on se connaît tous. Là, c'est très direct, si tu veux, comme contrôle. C'est-à-dire que très rapidement, tu augmentes le prix de la cantine, tu vois le retour. Hein. Bon, alors ça peut aussi avoir des répercussions. Bon, c'est anecdotique. Sur l'intercommunalité, alors, justement, j'ai été conseiller communautaire, mais avec un regard d'européen. Ce que vous avez dit, M. Pontier, est tout à fait exact. Il y a sans doute un problème de légitimité. La question des taxes additionnelles, la question de la levée d'impôts, finalement, par la structure intercommunale, a été, pendant mon mandat, moi j'ai fait 2 mandats, extrêmement problématique. On dit, mais attendons, on n'a pas la légitimité, on n'a pas été élu directement. Mais c'était exprimé, alors pas uniquement par moi, mais également par mes collègues maires, ce qui était vraiment une vraie source de tension, de difficulté. Puis en même temps, il fallait des fonds, du budget pour faire fonctionner l'interco. C'était extrêmement compliqué. Et autre élément, alors vous me direz ce que vous en pensez, M. Pontier, concernant ces structures intercommunales. Si je ne me trompe pas, je crois que dans le projet, entre guillemets, Sarkozy de 2010, la loi du 16 décembre 2010, il avait été prévu, il me semble, d'élire directement les présidents des intercommunalités au suffrage universel. Bon, ça a été évidemment replié aussi sec, parce que ça aurait créé des conflits de légitimité entre un EPCI, justement, comme je l'avais dit, et une structure intercommunale, ce qui brouillait complètement, je crois, la détermination des deux objets juridiques. Bien. Oui, là où je voulais en venir, c'était ça. Il y a un engouement, me semble-t-il, en France, sur ces questions de communautarisation des fonctions ou des territoires. Communautarisation, communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, etc. Dans notre milieu universitaire, on assiste au même phénomène. Nous avons des universités qui se communautarisent dans les fameuses communes, et avec ce processus que vous avez parfaitement décrit, qui est un vidage de substance des entités fédérées, si on veut, communautarisées, au profit de la structure supérieure. Mais c'est un phénomène que l'on connaît parfaitement bien en droit de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a exactement cette logique de communautarisation, transfert des compétences étatiques, et puis inflation des compétences de la structure supérieure. Donc là, on a un alignement à la fois européen et interne en logique de communautarisation qui est assez intéressant. Puis vous noterez également que dans le vocabulaire juridique que l'on emploie pour les structures intercommunales, on parle de quoi ? De principe de subsidiarité, car au-delà des compétences qui sont forcément attribuées par les lois aux structures intercommunales, mais à un moment donné, quand il s'agit de transférer une nouvelle compétence à la structure intercommunale, comment on raisonne autour d'une table ? Bah, est-ce que nous, chaque commune, on peut gérer bien comme il faut une piscine, ou est-ce qu'il ne faut pas être à 12 pour gérer la piscine ? C'est le principe de subsidiarité. Et à ce moment-là, on transfère la compétence. On parle de compétences exclusives, de compétences partagées, principe de subsidiarité. Et puis sur un plan politique, je termine avec ça. C'est très amusant. On connaît la manière dont nos élus nationaux ou nos ministres disent « Ah ben non, c'est pas notre faute, c'est l'Europe. C'est une directive machin ou un règlement truc. » Oui, mais monsieur le ministre, vous avez signé le règlement et la directive. Donc à un moment donné, il faut les remettre devant leurs responsabilités. Mais une fois qu'ils sont à Paris, ils disent « C'est pas nous. » Bah, que croyez-vous que nous ayons fait, nous, quand la piscine a été communautarisée, alors avant qu'elle ait été municipale ? Elle était à 1 euro l'entrée de la piscine quand elle était municipale. Elle est passée à 4,5 euros quand elle est passée en interco. Ben, monsieur Monjal, dites donc, c'est un peu cher là pour les familles et les enfants. Vous rigolez ? Allez voir le président de l'interco. Et c'est extrêmement... culpabilisant, finalement, quand on a un peu d'honnêteté, à se défausser aussi facilement. Mais c'est extrêmement compliqué pour le citoyen qui ne comprend strictement plus rien. Mais... au fond, le plus important pour lui, est-ce que c'est de comprendre comment ça fonctionne ? J'en suis pas sûr. Pour lui, c'est d'avoir des services publics de proximité efficaces. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Voilà, j'en ai terminé avec mes remarques. Donc, pour revenir à ma question, c'était ça, finalement. La préfecture, le département, et puis, que pensez-vous de cette logique de communautarisation, même si on sort un peu du droit japonais, j'en suis bien conscient, de communautarisation des territoires locaux qui ont des analogies, je crois, juridiques très profondes avec le droit de l'Union européenne ?
Oui, je peux dire quelques mots. Je crois qu'on est ici en droit comparé, ou bien la comparaison entre les deux pays. Je crois en matière de comparaison, en ce qui concerne le temps, maintenant on est à 4 heures, on devait finir à 3h30. Si c'était au Japon, on aurait fini. Bon. Donc je crois que... Je crois que...
Merci Mohamed de nous rappeler effectivement que nous ne sommes pas au Japon. Bon. On l'aura remarqué.
Je suis désolé de... Donc je donne la parole je crois à Edmi, c'est moi aussi de finir. Merci.
Mais tu nous l'as dit trop tard en même temps.
Comme vous savez, la préfecture au sens propre n'existe pas au Japon, parce qu'il n'existe pas le représentant de l'État sur place. Donc, si les collectivités territoriales reçoivent les compétences déléguées de l'État, c'est uniquement le chef exécutif élu directement par les électeurs habitants qui font cette tâche.
J'ajoute que, à mon avis, il y a un point commun entre la France et le Japon, c'est un enchevêtrement des compétences entre l'État et les collectivités locales qui est considérable. En France, ça fait des dizaines d'années qu'on dit qu'il faut mettre fin à l'enchevêtrement des compétences. On n'y arrive pas. Au Japon non plus. Mais je vois, j'ai une étudiante chinoise qui fait une thèse avec moi sur les compétences entre l'État et les collectivités locales. C'est encore pire. En Chine, c'est la confusion la plus complète. Ceci étant, pour répondre à votre question, la communautarisation des territoires, oui, moi, je suis extrêmement réservé là-dessus, parce que c'est une négation d'un certain nombre de réalités locales. Et si l'on prend l'exemple des universités, je vous donne mon sentiment personnel à partir de l'expérience de l'université d'Aix-Marseille, c'est une catastrophe. Je m'en moque éperdument. Oui, ça me laisse indifférent.
S'il vous plaît, là, si vous pouvez passer ça à tout le monde.
Ouais. Ah oui, pardon.
Ouais. S'il vous plaît, il y a l'autorisation, la cessation de droit à l'image, si c'est possible de la signer pour tout le monde. Ça serait gentil. Merci. Je crois que si je me permets de mettre fin à cette intéressante réunion et à nos travaux. Et je ne sais pas, je crois que c'est moi, le professeur Mongeal va parler, dire quelque chose. Merci beaucoup pour aujourd'hui et pour la fin de cette réunion. Merci.
Merci, cher Mohamed.